La grande matinale, le mag, c'est parti pour une heure de culture et de société avec Charline Vanhoenacker tout à l'heure et les ours blancs du Groenland avec Daphné Burki et sa nouvelle tête ce matin, une fille qui brûle les planches au théâtre et tout le monde en parle. À 9h20, vous retrouverez le débat du jour. François Mitterrand est mort il y a tout pile 30 ans. Quel regard porter sur son règne et sur son œuvre? Faut-il brûler l'héritage de François Mitterrand? Un de ses anciens ministres et un historien en discute, mais tout de suite, le grand portrait.
France Inter. La grande matinale. Sonia De Villers.
Marie-Hélène Lafon est aujourd'hui une grande écrivaine de la ruralité, celle de ses origines dans le Cantal, qu'elle sillonne de roman en roman, comme le paysan laboure son champ d'année en année. Hors champ, raconte le destin d'un frère qui reste à la ferme et d'une sœur qui part, parce qu'elle est une fille, et que les filles peuvent échapper à la ferme. Marie-Hélène Lafon est devenue professeure de français. Ses livres sèment des mots là où il en manquait, dans nos campagnes, entre les années 70 et aujourd'hui. Une question demeure, toutefois. Pourquoi celle qui a conquis sa liberté par le langage et l'écriture revient-elle sans cesse à cette terre dont elle s'est arrachée ? Portrait numéro 70. Bonjour Marie-Hélène Lafon.
Bonjour Sonia De Villers.
Alors pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi avec tous les mots que vous possédez, vous pourriez aller partout ? Parce que tel est le pouvoir, telle est la liberté de l'écrivain. Pourquoi est-ce que c'est là, à la Santoire, que vous retournez ?
Parce que... arraché, vous avez employé le mot arraché tout à l'heure. Parce que arraché rime avec attaché. Parce que arrachement rime avec attachement. Je ne sépare pas l'un et l'autre. Il y a un lien indéfectible.
Partir, c'est rester.
Partir, c'est rester. Partir, c'est s'inventer. Pour en écrire, il fallait en partir. Et cependant, quelque chose de soi toujours y demeure.
Écoutez la voix de Raymond Depardon, immense photographe.
J'ai eu la chance d'avoir une enfance dans une ferme, qui est maintenant une chance, puisque les fermes diminuent, il y en a de moins en moins. Et quand on fabrique des images, il faut avoir bien les pieds sur terre, quelque part. Et ce rapport au réel aussi, qui m'est très important, parce que les paysans, on le sait, ont un rapport au réel très fort. Alors, c'est vrai qu'ils ne sont jamais contents. Et les photographes aussi, et les cinéastes aussi. On n'est jamais contents parce que le réel est très difficile à saisir. Et on est toujours un peu déçu. Et... aussi, il y a un orgueil chez les paysans, et quelque part, je dois l'avoir. Et il me sert parce qu'à la fois, il m'aide aujourd'hui à dire, ben voilà, c'est ça.
Marie-Hélène Lafon, c'est très très beau ce qu'il vient de dire. Cet orgueil paysan, vous l'avez ?
Cet orgueil, un sens de l'honneur paysan, qui parfois se perd, qui parfois est perdu, qui toujours vacille. Raymond Depardon le dit d'ailleurs. C'est probablement ça, oui, qu'il y a, qui est déposé en lui comme en moi et comme chez nombre de ceux qui en sont et qui en viennent, comme une couche géologique, une strate. Qui
et est ce rapport au réel, saisir le réel. Les fermes sont des lieux envahis par les sens, à commencer par les odeurs qu'il faut fixer, je l'ai dit, qu'il faut saisir, qu'il faut décrire. La Santoire, enfin, cette ferme dans laquelle vous revenez sans cesse, elle est pleine d'odeurs de la terre, mais il y a une particularité, ce sont les bêtes. Il y a l'odeur des bêtes.
Les bêtes qui sont les vaches.
Oui.
D'ailleurs, mon père a employé toujours le mot bête pour parler des vaches. Et ça a une très forte présence, les bêtes, en effet. Je ne dis pas que les fermes céréalières, par exemple, vous voyez, ne sont pas des lieux dans lesquels les odeurs et les sensations ne sont pas sollicitées, bien entendu. Mais les vaches, ces bêtes-là, hein, ça vous regarde, ça sent, on les entend. Et il y a donc en effet quelque chose qui dès l'enfance, hein, dès qu'on commence à être au monde, quand on commence à être au monde dans ces lieux-là et dans ces milieux-là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de tous les sens à la fois, qui est très empoigné, très sollicité.
Qu'est-ce que ça fait, une bête qui meurt ?
Alors une bête qui meurt, d'abord ça pue, quand elle est morte. Et une bête qui meurt, et aujourd'hui ça a évidemment une acuité toute particulière.
Hein. Avec l'actualité.
Bien entendu, hein. Ça peut être le signe d'un naufrage majeur et définitif. Et c'est aussi un arrachement.
C'est le naufrage de la ferme.
C'est le naufrage de la ferme.
Et c'est l'échec du paysan.
En l'occurrence, dans ce livre-là, totalement.
Oui.
Totalement. Et c'est le signe de son impuissance aussi. Hein. Impuissance, dans l'histoire de Gilles, à soigner les bêtes, à leur apporter les bons soins. Vous voyez ? Voilà. Même si on sait très très bien qu'elles s'inscrivent dans une chaîne économique, les bêtes. Hein, et qu'elles.
Et en même temps, ces bêtes-là.
Oui.
C'est l'esclavage de Gilles. Gilles, le frère qui n'a pas pu quitter la ferme parce qu'il est un garçon et qu'il doit reprendre. Donc, pour lui, c'est l'esclavage, c'est le lien, c'est l'entrave. Ce sont les bêtes.
Alors,
c'est ce qui fait qu'il ne peut pas s'éloigner jamais.
Vous avez raison, ça tient. C'est un métier tenu. Hein. Les bêtes, il faut les traire tous les jours, il faut les soigner et les nourrir tous les jours. Hein. Et en même temps, Gilles ne tient debout et ne se tient au bord du précipice que parce qu'il a ce travail, si vous voulez, à faire et à accomplir. Et il doit le faire coûte que coûte. Et d'une certaine manière, les gestes font passer la vie. Les gestes du travail font passer la vie.
Et en même temps, les tables, ce n'est pas que votre enfance, ce n'est pas que simplement le cœur de la ferme, c'est le lieu de la nativité.
C'est vrai. Il y a aussi cette connotation-là, évidemment. D'ailleurs, l'âne est présent dans le livre. On a les bêtes, voilà. Hein, et on a aussi l'âne. Donc, on a la crèche. On a la nativité.
Jésus naît dans la paille au milieu des animaux.
Bien entendu. Et d'ailleurs, on a un substrat, ce que j'appelle ma quincaillerie catholique, qui résurge hein, dans tous mes livres. J'ai presque envie de vous dire à mon corps défendant, hein, puisque bon, j'ai été élevée. On commence d'ailleurs par une scène de confession.
De confession. Qui est absolument extraordinaire. Donc, les deux enfants, Claire et Gilles, et vous êtes un peu en pièces détachées dans chacun de ces deux enfants qui grandissent à la ferme, cette petite fille qui va partir, ce petit garçon qui va rester, il y a la première communion, il y a l'idée qu'il va falloir se confronter au prêtre et avouer ses péchés.
Inventer ses péchés, si possible. Hein, faire la liste de ses péchés. Alors, je me suis rendu compte hein, que ce mot de confession et ce rituel par lequel sont passés les gens de ma génération, aujourd'hui quand même, est entré en grande partie en désuétude. Hein. Il y a un coefficient d'exotisme qui est attaché au processus, qui est de plus en plus grand. Mais inventer la liste de ses péchés, qui n'a pas inventé la liste de ses péchés ?
Sauf que Marie-Hélène Lafont, vous dites quelque chose que je n'avais jamais lu, c'est que vous expliquez bien comment le monde paysan répartit les tâches entre les filles et les garçons, entre les hommes et les femmes. Vous dites la religion aussi.
Oui, bien sûr.
En réalité,
oui, bien sûr.
Les hommes ne se confesseront plus très vite.
Oui, oui. Les seuls qui vont, les seuls adultes qui gardent un rapport à ce rituel sont des femmes. Hein. Et les filles ne peuvent pas être enfants de cœur dans ces années-là. Hein. Ce que la sœur Claire ressent comme vraiment une injustice majeure.
Une injustice. J'ai ajouté une prière à celle de Claire, de Gilles et de toute votre artillerie et de toute votre quincaillerie catholique, c'est celle de Mike Brandt. En réalité, vous mettez beaucoup de temps dans Hors-Champ, Marie-Hélène Lafont, à dater les événements. Et quelque part, c'est grâce à Mike Brandt et aux autres figures de la variété française de ces années-là qu'on replace cette histoire dans la France des années 70. C'était voulu ?
C'est voulu. Il y a quelque chose d'intemporel de toute façon hein, dans cette histoire de lien. Entre celle qui s'en va et qui s'invente ailleurs et celui qui reste. Mais il n'empêche que toutes nos vies sont traversées par des bandes-sons auxquelles on n'a pas forcément prêté attention et qui, comme la quincaillerie catholique, remontent avec une précision stupéfiante. On se souvient des paroles, par exemple, de certaines de ces chansons. Hein, voilà. Dont, par exemple, la chanson de « Il était une fois », hein, qui avait quand même des paroles, j'ai encore rêvé d'elle, les paroles étaient torride sexuellement.
Absolument. Hein,
c'est incroyable. On entendait ça, on comprenait pas tout, et on les retient.
J'ai encore rêvé d'elle. Je n'ai rien fait pour ça.
Et les draps s'en souviennent.
Les draps s'en souviennent.
Elle n'est pas vraiment belle.
Hors champ, Marie-Hélène Lafon est aussi un livre et un texte extrêmement puissant sur ce que le langage ou l'absence de langage fait aux êtres humains. C'est un livre sur une famille où on manque de mots. Et ça, c'est totalement bouleversant. Gilles est un garçon qui vit dans la honte de lui-même, à commencer par sa difficulté à s'exprimer. Donc c'est quelqu'un qui toute sa vie ne demandera rien parce qu'il ne peut pas formuler la question.
Il ne peut pas formuler la question et quelque chose en lui est résigné de toute façon par avance à ce que ses demandes ne soient pas... Comment dire... Ce qu'il pourrait demander lui serait refusé. Donc, plutôt que de risquer le refus, on ne demande rien. Et encore faudrait-il, comme vous le dites, avoir les mots pour demander.
C'est ça.
Donc, il y a une sorte d'empêchement à être avec les autres qui s'installe très tôt dans cette vie, on le sent, hein, en dépit de la présence vigilante de la sœur et en dépit, encore une fois, du lien qui existe avec la sœur. Il n'en veut pas à sa sœur d'être ce qu'elle est à côté de lui et d'être toujours par les adultes renvoyée comme étant celle qui fait très bien ce que lui ne peut pas faire. Il est toujours renvoyé à une impuissance. Et ça commence très tôt. Et ça va se déployer dans son existence.
Ça commence dès l'école où il ne peut pas lire à voix haute. Ça commence dès l'école où il n'ose pas prendre la parole devant la classe. La honte de ne pas savoir parler. Vous qui avez été professeur de français, Marie-Hélène Lafon, jusque-là, jusqu'à cet été, en réalité, c'est une vie entière à enseigner le français à des élèves et pas dans des écoles huppées. Est-ce que c'est quelque chose de central pour vous, faire qu'un enfant ait les moyens de parler, que la langue française soit pour lui un tremplin et pas une barrière?
Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est l'horizon d'attente de tout professeur.
Et c'est avant tout le reste.
Ah ben oui, totalement. Et c'est ce qui fait que ça m'a toujours paru, hein, avec des hauts et des bas, bien entendu, parce que c'est un métier qui a ses âpretés et ses rugosités, mais ça m'a toujours paru un métier très essentiel, un travail très essentiel, politiquement très essentiel.
Politiquement.
Ouais, bien entendu, donner accès à la langue, donner accès aux mots, et donc donner accès à l'intériorité et au monde. C'est un horizon d'attente, on n'est pas toujours certain d'y parvenir.
Claire qui monte à Paris, Claire qui devient professeur, Claire qui devient écrivaine, revient sans cesse chaque année à la Santoire. Et le frère a des phrases pour décrire le père. Le père qui est un être malade, le père qui est un être taiseux, le père qui est un être violent, le père qui est un être rempli de haine. Et Claire, je vous cite, comprend que son frère n'échappera jamais à ses phrases. Elle ne dit pas « il n'échappera jamais à la ferme » ou « il n'échappera jamais au père ». Elle dit « il n'échappera jamais à ses phrases ». Il y a des phrases qui enferment.
Oui, il y a des phrases qui enferment dans une sorte de cercle, si vous voulez. Hein, un cercle vicieux qui, manifestement, a refermé ses crocs comme une bête sauvage sur cette vie-là. Hein. Et les cercles familiaux ne sont pas forcément... des cercles vicieux, ils peuvent être aussi des cercles vertueux. Hein. Ce n'est pas parce que ce père est paysan, par exemple, que ça tourne mal. Oui. Hein. C'est parce que ce père, pour toutes sortes de raisons, est ce qu'il est et qu'il ne peut pas avoir ce fils.
Oui.
Et donc, quelque chose va se verrouiller entre eux, qui va aboutir à ces longues steppes de silence et à cette vie empêchée.
C'est ça. Alors que Claire, je vous cite encore, qu'est-ce qu'elle fait Claire ? Chercher les mots, les exhumer, les trier, les choisir et aligner les gestes, balayer, laver, ranger. Elle ne peut pas vivre autrement, elle ne sait pas vivre autrement. Pourquoi ce personnage met dans la même phrase et donc exactement place sur le même plan le fait d'exhumer, de trier, de choisir des mots et le fait de plier le linge, de ranger le linge, de repasser le linge et de balayer la cuisine? Pourquoi ça marche ensemble?
Parce que c'est ce qui lui reste à Claire. pour manifester son lien avec ceux, CEUX, qui sont les siens, indéfectiblement. Cette mère, ce père, ce frère sont les siens. Et tout ce qu'elle peut faire pour eux, puisque les mots ne passent pas, ils restent coincés dans les gorges, ce sont des gestes. Et ce sont ces gestes-là qui, au même titre que son rapport avec les mots qui lui permet d'être dans le monde à elle, ce sont ces gestes-là qui lui permettent de garder un lien et une place dans ce monde d'où elle vient. Parce que cette place à garder dans ce monde d'où elle vient, elle demande un effort. On ne se gêne pas pour lui dire qu'elle n'y comprend rien, que ce n'est plus sa place. Or, elle tient à rester là en vigie, au bord du monde du frère, au bord de la vie du frère, avec un sentiment d'impuissance totale et un sentiment de nécessité à y être en même temps.
Marie-Hélène Lafont, première rentrée de septembre, sans élève. Après,
sans élève, oui.
Sans élève, première rentrée de janvier, sans élève. Après combien d'années d'enseignement ?
41 années, puisque j'ai commencé en 84 et cessé d'enseigner en 2025.
Vous savez, je me suis demandé si les professeurs, en fait, n'étaient pas, au fond, les seuls en France à être exactement comme les paysans, profondément marqués dans leur chair et dans leur psychisme par les saisons. S'il n'y avait pas quelque chose tout au fond de vous qui fait que la fin de l'été, ça ne peut pas être autre chose que préparer la rentrée.
La rentrée scolaire. Mmh. Oui, il y a quelque
Est-ce
chose...
Est-ce que ce n'est pas inscrit ?
Alors, il y a des rituels du retour qui sont inscrits quand on a vécu plus de 40 ans de sa vie dans un calendrier scolaire. Et c'est rituel de moments qui reviennent, voilà, comme ça, eh bien, évidemment, ils s'inscrivent très naturellement quand on vient du monde paysan, où on a aussi des saisons de ceci, des saisons de cela, ça c'est certain. Mais il y a un autre parallèle qui m'est apparu très tôt, entre les deux mondes. Hein. C'est celui que j'exprime dans Les Derniers Indiens, par exemple. Hein. Les Derniers Indiens est un livre très crépusculaire, hein, sur un certain monde paysan, hein, qui est en pleine mutation. C'est une mutation qui ressemble à une mort. Hein, oui. Et bon, ces choses-là ont une acuité particulière, hein, à être dites ici et maintenant.
Oui.
Hein, et
oui. Je me suis rendu compte sous la tour Eiffel.
Voilà, oui. Voilà. Et je me suis rendu compte, alors que je l'ai fait d'une manière très inconsciente, hein, que j'ai embrassé la carrière, entre guillemets, de professeur de lettres, vous l'avez dit, mais, circonstance exténuante, de lettres classiques, le latin et le grec. Et les professeurs de lettres classiques, souvent, se vivent comme les derniers indiens du système scolaire. Vous voyez ? Donc, il y a bien là quelque chose aussi qui s'inscrit dans une vie.
Lisez Hors Champ, qui paraît chez Buchet-Chastel. C'est un livre absolument magnifique. Et puis sinon, Jacques Dutronc chante « Les gens s'en foutent ». Les gens sont flous, les temps sont flous. Et c'est pas vous qui direz le contraire, Marie-Hélène Lafont. Merci beaucoup.
Merci.
Les gens prennent tout, les temps sont sous ça, les francs, comme ça d'un coup. Ils ont besoin d'un petit chouchou, d'un mirmidou, d'un grand bichou, d'un truc en plastique, en caoutchouc, une petite chose pour faire chouchou. Et qui flambe vite comme Amadou. Les gens sont fous, les temps sont fous, les temps sont fous, les Scooby-Doo, des porte-clés, des loups-garous, andalous, ou bien hindous, en zoulou, des petits piou-piou, qui s'amusent à Pousse-Caillou, au Tirsou, au Manitou, des porte-clés, des Scooby-Doo, font-ils entendre.
Les gens sont fous, les temps sont flous. Peut-être qu'on pourrait commencer hein, tous nos flashs d'infos par cette phrase merveilleuse de Jacques Dutronc. Elle était de 1966. Alors, nous sommes ensemble jusqu'à 10h dans le mag de la grande matinale. 9h45, Charline Vanhoenacker.
Bonjour la France Inter.
Bonjour.
Trump et le Groenland. Je pense que tout a déjà été dit, sauf, personne n'a pensé à tendre le micro aux ours blancs.
Ah, ah
oui. Et la pluralité des points de vue sur le service public.
Daphné Burki.
Oh, je suis ravie, il va y avoir un petit animal oui. Tout à l'heure. Je suis contente. Et il y aura ma nouvelle tête, bien évidemment, qui s'appelle Florence Janas. Elle est en train de cramer les planches du théâtre contemporain. Elle est en tournée avec sa pièce Paradoxe, mais elle vient nous faire la bise dans le studio juste avant de repartir.
Formidable. Il est 9h29, passé de 30 secondes. Vous écoutez France Inter et c'est l'heure du débat du jour.
L'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses voeux. Là où je serai, je l'écouterai. Le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin et plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas.
Les derniers vœux à l'Élysée de François Mitterrand, 8 janvier 1995. Il est mort il y a 30 ans précisément. Avec le recul, que reste-t-il du premier président de gauche de la Ve République ? Des victoires entrées dans l'histoire ou des combats perdus ? Des avancées majeures ou des espoirs déçus ? Faut-il brûler l'héritage de François Mitterrand ?
France Inter, la grande matinale, Sonia De Villers.
Alors, j'en discute ce matin avec l'un de ses amis, d'abord, c'est comme ça qu'on peut vous qualifier, mais aussi ancien ministre, ancien chef de cabinet, Jean Glavany, bonjour.
Bonjour.
Vous faites paraître ce livre, Mitterrand, conversation intime, aux éditions Perrin. Et Jean Garrigue, face à vous, bonjour.
Bonjour.
Historien, président de la Commission internationale d'histoire des assemblées, dernier livre paru, Les avocats de la République, de Danton à Robert Badinter. Ça tombe bien, on va en reparler de Robert Badinter. Ce livre est paru chez Odile Jacob. Jean Glavany, nous parlons ce matin d'héritage, de traces laissées dans l'histoire. À vos yeux, la plus importante laissée par François Mitterrand, c'est l'abolition de la peine de mort.
Si vous n'en demandez qu'une, je vais avoir du mal à dire que c'est pas ça, mais avec l'abolition de la peine de mort, retenons votre idée, vont tout un tas de conquêtes de droits et libertés. Avec la peine de mort, je voudrais citer l'abolition du délit d'homosexualité, qui a pas la même importance, mais pas loin pour moi,
82.
D'un point de vue de civilisation, en termes de civilisation. En termes de civilisation aussi, et d'état de droit, la fin des tribunaux d'exception, la fin de la cour de sûreté de l'État. Bref, autour de la peine de mort, il y a aussi des grandes conquêtes en termes de droits et libertés que je place sans doute en un, mais c'est parce que vous me demandez une seule réponse que je m'arrête là.
Jean Garrigue, je m'adresse à l'historien que vous êtes. Le temps qui passe, c'est 30 ans depuis la mort de Mitterrand. Est-ce que ça bénéficie à François Mitterrand ? Est-ce que ça fait disparaître les petits et les grands arrangements pour ne laisser que les grands héritages, l'abolition de la peine de mort entre autres ? Ou est-ce qu'au contraire, ça fait apparaître sous un jour plus cru toutes les limites et toutes les zones d'ombre de sa présidence ?
C'est une question très, très complexe que vous posez, parce que on a constaté, par exemple, que pour le général de Gaulle, le temps n'avait cessé de réhabiliter, pour le peuple de gauche, notamment son image. Mm-hmm. Donc à partir des années 90, y compris à gauche, le général de Gaulle était devenu une statue du commandeur. François Mitterrand, les choses sont un petit peu plus complexes. Je pense malgré tout qu'il restera l'image d'un grand du XXe siècle, d'ailleurs, puisqu'il n'a pas connu le XXIe siècle. Il restera l'image d'un grand politique. Mais au fond, peut-être que ce qui reste le plus de lui, c'est le tout début, justement. Ce 10 mai 81 et l'espoir qu'il a suscité dans ce qu'on appelle le peuple de gauche. Parce qu'au fond, depuis ce 10 mai 1981, la gauche n'a plus jamais connu un moment d'espoir aussi intense. Cette illusion lyrique qu'était le 10 mai 1981. Et donc, je ne sais pas si aujourd'hui, le temps va effacer, en tout cas pour les historiens, il n'efface pas tout ce qui a été manqué et toutes les désillusions, malgré tout, qui ont été celles de ces deux.
On va les énumérer, Jean Glavany, quand vous publiez aujourd'hui, pour le public d'aujourd'hui, un livre « Conversations intimes avec François Mitterrand ». Est-ce que vous vous adressez aussi à tous ceux que François Mitterrand a déçus, à tous ceux qui, aujourd'hui, critiquent François Mitterrand, brûle en place publique son héritage?
Mais bien sûr, je m'adresse à tous. D'ailleurs, dans mon livre, je n'oublie aucune des affaires dont vous avez parlé, ni du Rainbow Warrior, ni des écoutes, ni ceci.
On n'en a pas encore parlé, mais on va en parler.
Ni d'autres sujets, parce que je pense qu'il faut en parler, parce que j'en ai parlé avec lui, et qu'à cette occasion, j'ai des traces de ces conversations que je
On peut les énumérer, les grands
oui,
qui
mais,
ont marqué.
Oui, si vous voulez.
Le Rainbow Warrior, c'est donc les services secrets français qui font exploser un navire de Greenpeace en Australie, et ça entraîne la démission de Charles Hernu. L'affaire Urba, vous voulez résumer ce qui s'est passé à ce moment-là, Jean Garrigue ?
C'était un système de financement occulte du Parti Socialiste, qui avait été mis en place dès les années 70 d'ailleurs, qui existait d'ailleurs sous d'autres formes dans d'autres partis. Mais là, il y avait quelque chose de systémique au Parti Socialiste et qui a choqué particulièrement, parce que, et c'est ça fondamentalement le choc des affaires sous François Mitterrand, c'est que la gauche avait une sorte de virginité par rapport à la corruption, par rapport au conflit d'intérêts. Et on s'est aperçu, à la faveur de ces deux présidences, que la gauche au pouvoir, elle était capable aussi de ces dérives.
Jean Glavany.
Oui, mais enfin, on peut voir les deux faces de la pièce. C'est sous Mitterrand, sous les deux septennats, qu'on a mis fin à l'espèce d'aveuglement de la société française et de sa démocratie face au problème de financement des campagnes électorales et des partis politiques. Avant, il n'y avait aucune législation, jusqu'à Mitterrand, aucune, tout était permis. Ça a fini avec Mitterrand.
C'est-à-dire
qu'on a mis en place des règles.
Grande affaire, très grande affaire, qui n'est pas simplement une chronique médiatique, mais qui a été vraiment une secousse profonde, ce sont les révélations de Pierre Péan sur le passé de François Mitterrand, sur cette jeunesse d'extrême droite et sur son passé vichiste.
Oui, alors ça, là-dessus, je serais moins critique, parce qu'au fond, quand on regarde très précisément ce qui s'est passé, on ne va pas reprendre tout l'historique de François Mitterrand, mais qu'il ait effectivement été, dans sa jeunesse, tenté par une forme d'extrême droite, les Croix de Feu, peut-être même l'Action française, qu'il ait ensuite eu ce passage dans le régime de Vichy, ne doit pas dissimuler aussi qu'en même temps, il est très vite entré dans la résistance, et que donc, il a eu une action qu'il a d'ailleurs menée à être maintes fois ministre, 11 fois ministre sous la 4e République. Donc c'est compliqué. Ce qu'on pourrait lui reprocher, par exemple, c'est d'avoir gardé cette amitié quand même très sulfureuse
quand même, oui.
Avec René Bousquet, par exemple.
Aux fonctionnaires
du régime de Vichy.
Voilà.
Mais d'une part, je veux Jean dire Glavany. Les choses. François Mitterrand, il vient d'un milieu de droite, c'est clair, et il est venu de là. Et il n'a cessé après de progresser vers la gauche. Et c'est un parcours singulier quand on voit les parcours inverses empruntés par tant et tant de gens qui donnent des leçons dans la presse comme dans la politique. Mais oui, il est passé par Vichy. Et Péan n'a rien révélé. D'ailleurs, Péan, que j'ai bien connu, était furieux de l'utilisation qui était faite de son livre.
Enfin, vous vous souvenez du scandale
mais parce que ça a été.
Vous vous souvenez à quel point ça a secoué, bousculé et à quel point c'est resté.
Mais je m'en souviens très bien, et c'est pour ça que j'en parle avec détente et sérénité. Simplement, Péan n'a rien révélé, et cette photo n'a rien de compromettant. Cette photo, on le voit avec Pétain.
C'est ça.
Parce que cette photo, ce n'est pas une audience accordée par Pétain à François Mitterrand.
C'est
une
audience. Glavany, vous ne comprenez pas ou vous rejetez totalement cette image qui est restée de François Mitterrand dans les yeux et dans la rétine du peuple de gauche comme dans celui de droite, de quelqu'un qu'on appelait le grand Florentin, de ce manœuvrier, de cette culture du secret.
François Mitterrand est un homme secret, c'est vrai. C'est un homme secret, c'est un homme qui était farouchement attaché à sa liberté personnelle, au sens de son libre arbitre, qui refusait d'être sous influence, qui donnait du temps à la décision, donnait du temps au temps, qui voyait loin, qui regardait loin. Et alors on dit ces secrets, il se précipitait pas, François Mitterrand, il se précipitait pas pour avoir un avantage personnel.
Cette culture du secret, Jean Garrigue, quand même, oui. Ça a laissé des traces. Oui. Il y a plein de choses qui ont laissé des traces assez peu glorieuses dans l'image de la politique.
Secret pour lui, mais ne respectant pas les secrets des autres, voire les écoutes téléphoniques, par exemple.
Voilà.
Un président socialiste qui procède comme ça, de manière massive, à ses écoutes téléphoniques sur des journalistes, et même des adversaires politiques, des comédiens, c'est quelque chose qui était difficilement acceptable pour le peuple de gauche.
Premièrement, parce que...
Là aussi, ça a été un immense scandale.
Oui, non, mais ceci... Je ne suis pas là pour défendre systématiquement. J'ai mal vécu cette période.
Les délits d'initiés.
Et François Mitterrand l'a mal vécu, puisqu'il a sanctionné ceux qui avaient procédé de la sorte. Il a mis fin à cette cellule. Mais au début, elle a été créée après une période d'attentats, pour concentrer, pour réunir dans un centre simplifié les renseignements sur le danger terroriste. Il n'a pas fait écouter, encore le moins lui, des journalistes ou des acteurs. Il y a une actrice, parce que son mari ou son compagnon était un avocat de terroriste, il n'a pas écouté les journalistes. Pour écouter les journalistes, il n'a pas écouté des femmes, des comédiennes. Mais cela dit, c'est pas glorieux. Et il y a mis un terme et il l'a sanctionné. Mais en faire une affaire d'État, oui, c'était un vrai débordement, mais il faut la remettre à sa juste place.
François Mitterrand voyait loin, ça c'est vrai. Et qu'on peut lui savoir gré, notamment, bon, d'abord d'avoir réconcilié la gauche avec le pouvoir politique, c'est quand même quelque chose d'important. Et puis surtout d'avoir vu très loin en matière de construction européenne. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la construction européenne, c'est un tabou, c'est quelque chose qui est rejeté par notamment le plus grand parti de France,
le
Rassemblement national. Mais cette construction-là, l'image de François Mitterrand avec Helmut Kohl, en 1984, main dans la main, à Verdun-sur-le-Doubs.
Ça restera, parce que
c'est quelqu'un quand même qui avait vécu la guerre franco-allemande.
Deux points que je voudrais néanmoins soulever avec vous, en matière d'héritage, qu'est-ce qu'on brûle et qu'est-ce qu'on garde. La montée du Rassemblement National, inexorable, sous François Mitterrand, Jean Garrigue.
Il y a quand même, ce qui me semble là aussi, au moins une erreur, voire une faute politique, d'avoir choisi le scrutin proportionnel en 1985 pour les élections législatives de 86 qui ont permis au Front National quand même de créer un groupe parlementaire de 30 députés.
Ça, Jean Glavany.
C'est une erreur. Oui,
mais ça d'abord, premièrement, la proportionnelle a toujours été dans tous les programmes de la gauche depuis des décennies. Et donc, parce qu'on considère, la gauche considérait que face au scrutin majoritaire, le scrutin proportionnel était plus juste. Alors, plus juste, c'est-à-dire qu'il permettait de représenter mieux l'ensemble de la diversité politique française.
Mais c'est pas pour
alors,
ça qu'il a fait.
Est-ce qu'on a eu...
Il a fait pour affaiblir la droite modérée.
Non, c'est que c'était dans son programme, c'était dans les propositions sans proposition.
Alors, mais c'était un après, redoutable tacticien.
Oui, mais quand on s'engage à faire des choses et qu'on les réalise, on dit « Ah oui, mais c'est tactique. Non, si je me suis engagé, j'ai pris un engagement. » J'ajoute que quand on voit maintenant, il a eu raison trop tôt, parce que le Front National, de toute façon, progressait dans la société française, comme toutes les idées de droite ou de droite extrême progressent dans toute l'Europe et même dans le monde. Donc,
Il a eu raison trop tôt ou tactiquement, politiquement, ça l'arrangeait d'avoir un Jean-Marie Le Pen qui progressait sur l'échiquier politique.
Je ne sais pas répondre à ce genre de choses. Je ne dirais pas que ça le dérangeait, mais je veux dire, c'est pas pour ça qu'il l'a fait. Je veux dire, Mitterrand ne raisonnait pas comme ça. D'ailleurs, il pensait que la vie politique, c'était un axe continu, de l'extrême droite à l'extrême gauche, et qu'il n'y avait pas des frontières hermétiques, tout était progressif. Et voilà, je n'ai jamais entendu Mitterrand faire la distinction très formelle entre la droite et l'extrême droite, et jouer l'un pour contrer l'autre. Non, je n'ai jamais entendu ça.
Jean Garrigue.
Mais de fait, on est obligé de dire aussi que les années Mitterrand sont celles de la montée inexorable du chômage, d'une sorte d'échec économique. En tout cas, le premier septennat de François Mitterrand, c'est quand même un échec, une déception pour beaucoup de militants de gauche ou d'ailleurs. Donc, il y a quand même des choses qu'on ne peut pas ignorer et qui font que Lionel Jospin lui-même parlait d'un devoir d'inventaire à la fin des deux présidents.
Et j'ai une dernière question, un point à soulever quand vous dites qu'il n'était pas aveugle à l'histoire ni à la marche du monde, c'est la question du Rwanda, qui aujourd'hui a été réouverte, Jean Garrigue, par les historiens,
tout à fait,
notamment le rôle de la France dans la guerre au Rwanda et dans le génocide au Rwanda.
Oui, qu'on peut, selon les historiens spécialistes, que je connais bien, effectivement, le rôle de la France a quand même été assez ambigu dans cette affaire, c'est-à-dire qu'on a plus ou moins laissé faire ce génocide. Et je pense que là, ça c'est le travail des historiens, oui. de démêler un peu le vrai du faux, les responsabilités. Je sais que les responsables socialistes, eux, ont toujours nié justement cette forme de responsabilité, que j'appellerais pas une culpabilité. Mais enfin, ça reste une tâche quand même sur ce.
Jean Glavany, pour vous, ça reste une tâche?
Sûrement pas. C'est un sujet suffisamment douloureux pour que je ne sois pas donneur de leçons et sûr de moi. Je pense qu'il y a une analyse critique à faire de la politique de la France pendant cette période. Et avant, si la France est intervenue militairement au Rwanda, c'est sur la base d'un accord militaire signé pas par Mitterrand, par Giscard. Est-ce qu'il fallait signer cet accord? Est-ce qu'il fallait l'appliquer? Bref, avoir une analyse critique. Mais en même temps, la France a été la seule à intervenir. Et si elle l'a fait si tard pour mettre fin au génocide, si elle l'a fait si tard, c'est parce que les États-Unis ont bloqué la délibération de l'ONU. Acceptons toutes les critiques, prenons les choses. Mais mettons la part des choses, cette espèce de talent que nous avons tous en France à toujours nous couvrir nos têtes de cendres. Savez-vous que pour ces ouvrages écrits en France, très critiques à l'égard de Mitterrand et du Rwanda, il n'y en a pas un dans le monde, pas un ouvrage d'historien dans le monde qui critique la position de la France. Pas un. Ni aux États-Unis, ni en Angleterre, ni en Allemagne, ni en Belgique, pourtant directement concerné.
Gageons que c'est notre devoir d'inventaire.
Notre devoir d'inventaire de faire les choses et de les faire honnêtement.
Jean Glavany, je vous remercie. Ça paraît chez Perrin, donc ces conversations intimes avec François Mitterrand et Jean Garrigue. Je vous remercie d'avoir débattu face à Jean Glavany. Faut-il brûler l'héritage de François Mitterrand? Je pense qu'on n'a pas fini d'en découdre. Merci à tous les
Hey, I thought it was all over.
What's up, Dolce?
Hey, girl.
You know, it's been a little minute since you and I have had a chat.
Has it really?
Probably since, like, your last EP, All the Places You'll Go.
Oh, wow. It's been a minute, yeah.
I've been getting some calls. Oh. People are a little bit worried about you.
No worries.
And I know that I was kind of that outlet for you, so...
You were.
Why don't you just tell me what's been going on?
Okay.
Remember old dude from 2019? Nice, clean nigga, did me dirtier than laundry. Took a scroll through his IG just to get a DM from his wifey. I was so confused, what should Dolce do? She didn't know about me and I didn't know about Sue. I opened up the messages and had to hit the zoom. Turns out the girl was really a dude. Nigga think he slick back till I slip back. Got my lick back, turn a nigga to a knick-knack. I moved on, dropped a couple of songs, and then I went and got signed, now it's 2021.
Okay, I just feel like this is the perfect opportunity for us to just take a second and kind of unpack what's happened to you. You know, this guy cheated on you and...
Nah, fuck it. Platinum record this, Bible record that. I'm making so much money, I'm all over the net. I'm moving so fast, no time to process. And no, I'm not in a gang, but I'm always on set. Wristwatch, drip drop, label want the TikToks. Now I'm making TikTok music, what the fuck? I need a cleanse, need a detox, but we ain't got time to stop. The charts need us. Fast forward me, 2023. I'm stacking lots of cheese and making money. My grass is really green and... Honestly, I can't even fucking cap no more. This is a really dark time for me. I'm going through a lot.
By a lot, you mean drugs?
I wouldn't.
Drugs?
No, it's a...
No?
It's a natural plan.
No, I'm not judging.
I'm not an addict.
I'm just saying.
I don't think...
You wanna talk about it?
I mean, fuck. I like pills, I like drugs, I like getting money, I like strippers, I like to fuck, I like day drinking and day parties in Hollywood, I like doing Hollywood shit, snorted Bollywood, what can I say, the shit works, it feels good, and my self-worth's at an all-time low, and just when it couldn't get worse, my ex crashed my place and destroyed all I owned, whoopsie, made a oopsie, $100,000 oops, made me loopy, I ain't a killer, but don't push me, don't wanna have to turn a nigga guts into soup bean.
Whoa. Okay, Dolce. We don't want to revert back into our old ways. So we're going to try a breathing exercise, okay?
All right,
when I breathe, you breathe, all right? Let's go.
Denial is a River, c'est Dolce et c'est un extrait de son dernier album. Il est 9h, presque 47 sur France Inter. Merci à tous d'être à l'écoute. Joie de retrouver Charline et Daphné Burki.
Oui.
Et la nouvelle tête de Daphné Burki qui prend place dans le studio. Charline, j'invite tout le monde à vite se pluguer sur l'appli France Inter ou sur YouTube pour voir à quoi vous ressemblez ce matin. Vous êtes toute douce et vous avez des poils partout. Donald Trump menace de mettre la main sur le Groenland et nous accueillons en studio un habitant du Groenland, un ours blanc, car vous avez, monsieur l'ours, un message à nous délivrer.
Oui, en effet, voici mon message.
Au secours ! Au secours, Sonia, j'ai peur ! Trump, il veut mettre sa grosse patte partout et moi, je veux pas finir dans un Big Mac. Parce que, oui, les enfants aussi ont le droit de comprendre les enjeux géopolitiques.
Oui. Ça va mal finir, cette affaire. Mon territoire est une extension du Danemark.
Une extension ! Donc, on est déjà colonisé. On est les seuls blancs de la planète à avoir été colonisés.
Mais franchement, si demain, c'est la Troisième Guerre mondiale, vous pensez d'abord, comme ça, spontanément, à quel pays pour vous défendre ? Ben, pas au Danemark, on est d'accord. Non, le Danemark n'est pas équipé pour gagner la guerre. L'Eurovision, à la limite. Non, la France non plus, elle ne sera pas d'une grande utilité pour nous défendre. Dès qu'il y a 3 cm de neige, c'est le chaos. J'imagine déjà les titres. Les troupes françaises battent en retraite à cause d'une fracture du coccyx généralisé. D'ailleurs, à ce propos, il fait bon chez vous en ce moment. Hein, il fait doux. J'avais trouvé un bon plan pour la nuit. J'étais logée au Picard de la rue de Rennes. Mais ça va, en fait. Du coup, je squatte la terrasse de Mathieu Vidard. Il est gentil, mais il ronfle. Bref, heureusement, on a Björk avec nous. Vous avez vu, elle a lancé un appel à déclarer notre indépendance. Elle nous défend. Alors bon, elle fait 1m20, elle pèse 33 kilos, mais ça fait plaisir. Hein. Bah ouais, mais elle était où Shakira quand il fallait défendre le Venezuela, hein ? Trump, il propose d'acheter le Groenland en filant genre 10 000 boules à chaque habitant. Mais ils sont capables de dire oui, ces cons-là. Hein. Mais c'est tellement bête, les humains aussi. Vous feriez bien de vous méfier, vous, les Français. Je voudrais vous y voir quand Trump il va essayer de vous piquer la Corse. Quand il va mettre la main sur vos gisements de brochou et siphonner vos réserves de saucisson d'âne. Moi, jamais je deviendrai américain. Je suis contre la société de consommation. C'est-à-dire que je suis pas comme tous ces ours bruns qui vendent leur image pour en faire des pluches ou des histoires avant d'aller au lit. Pourtant, moi, je suis tout doux. Daphné, vous les touchez ?
C'est vrai.
Ouais. Je suis même trop doux. Du coup, pour Trump, je suis woke. Et Daphné, pour Drag Race, j'ai mes chances ou pas ? Quand je vois ce que je fais Trump, je veux plus jamais entendre dire que je suis l'un des pires prédateurs au monde. Dites, vous voulez pas m'adopter, parce qu'on est bien chez vous. Hein. Votre studio, c'est la même couleur que la banquise, mais quand ils butent des baleines. Non, oh, et là, c'est quoi ? Oh, t'es la régie ! Ils sont mignons derrière leurs vitres. J'ai l'impression d'être aux zoo. Hein ? On a le droit de les nourrir parce qu'ils sont tout maigres. Hein. Ah, c'est parce qu'ils sont mal payés.
Ah ouais.
Bah faites-vous racheter par Trump. Ah, ça me donne une idée. Vous auriez pas un gros marqueur noir sous la main, comme ça je me dessine des taches noires, je me fais passer pour un panda du zoo de Beauval. Alors je finirai par un message solennel aux Européens, parce que là vous êtes tout mou en ce moment. Hein. Ah, je vous serais reconnaissant de ne pas vendre ma peau avant de m'avoir tué.
Oh, Charline Van Honecker, l'ours blanc qui va interviewer samedi à 19h15 dans Bistroscopie. Christine Ockrinthe.
Oui, je garde le costume.
Oui, c'est ça, c'était ma question.
La grande matinale sur France Inter.
Daphné Burki et sa nouvelle tête.
Il est 9h50, nous sommes en direct dans le studio de la grande matinale de France Inter. Et ce matin, ma nouvelle tête s'appelle Florence Janas. Elle est comédienne et c'est celle qui crame les planches du théâtre contemporain en ce moment même. Comédienne totale, hein, sur scène au théâtre d'accord, mais aussi sur les plateaux de cinéma. Elle est drôle, elle est fantasque et paradoxalement extrêmement précise. Comme le nom de son spectacle d'ailleurs, qu'elle présente en ce moment et qui commence à faire beaucoup de bruit, ce spectacle. S'appelle Paradoxe. Avant d'entamer une tournée avec celui-ci, elle est passée nous faire la bise au studio de France Inter. Bonjour Florence Janas, bienvenue.
Bonjour Daphné.
Comment ça va ?
Bonjour tout le monde. Ça va bien.
Vous avez été accueillie par un ours blanc, donc a priori on se sent bien. Vous avez été formée au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Oh, mais avant le conservatoire, bah finalement c'était quoi votre première vocation ?
Mentir.
Le mensonge ?
Ah ouais. C'était peut-être une façon, une première approche de déformation de la réalité. En tout cas, une grande évasion pour moi. Et je sais pas, j'avais vraiment des belles. Alors, je mentais beaucoup à mes parents, mais pas seulement.
Ah ouais ?
Ouais, j'aimais bien raconter des grandes histoires. Par exemple, quand j'étais par exemple, en CP, j'étais chez Monsieur Martin, c'était un vilain instituteur qui tirait les oreilles. Eh oui, je ne suis pas tout à fait une nouvelle tête. Hein. Je ne dirais pas que j'ai une vieille tête, mais quand même.
Donc, qu'est-ce que vous lui avez dit
dans les années 80. Et puis, il y avait dans la classe une fille qui s'appelait Catherine, une espèce de terreur un peu qui soulevait sa jupe, qui n'avait pas de culotte, qui montrait sa zézette à tout le monde.
Okay.
Et elle me terrifiait, elle nous terrifiait, elle nous fascinait. Et puis, j'étais rentrée à la maison et j'avais dit à mes parents que Monsieur Martin avait enfermé Catherine dans l'armoire à fourniture. Alors voilà, après on se retrouve le lendemain, puis mes parents me disent « Alors, elle est toujours dans l'armoire à fourniture, Catherine ?» Et je dis « Ah bah oui,
bah !» oui.
Alors bon, à un moment donné, il fallait quand même dire que c'était pas vrai, c'était très embarrassant, et donc vraiment, c'était mais jusqu'à pleurer, quoi.
Moi, j'ai fait ça toute mon enfance aussi, et je suis devenue journaliste.
Et moi, actrice.
Actrice et comédienne, avec un parcours impressionnant. En plus, vous venez d'un théâtre très, très exigeant. Pardon, vous avez joué La Mouette, Oncle Vania ou encore Les Trois Sœurs. Et ce cinéma qui vous a rattrapé par des films qui ne laissent jamais indemne, comme Jusqu'à la gare de Xavier Legrand, Titane de Julia Ducournau ou encore La Pampa d'Antoine Chevrolier ou encore en ce moment même en salle, L'âme idéale d'Alice Vial. C'est à chaque fois des films denses, politiques, souvent radicaux et au milieu de tout ça, il y a ce théâtre et ce compagnonnage au long cours avec Guillaume Vincent, votre ami que vous avez rencontré sur les bancs de la fac et vous avez créé ensemble ce spectacle paradoxe, hyper bien accueilli. Il manquait ce spectacle dans votre palmarès.
Ah bah ouais, c'est le spectacle de mon cœur. Hein.
Vous me le racontez, je vous donne quelques
secondes,
je mets une musique qui vous accompagne.
Allez.
C'est quoi Paradoxe?
Ben, ouh, waouh.
Ah bah, mais il faut être honnête avec l'auditeur,
ouais,
parce que ça part du réel, ce spectacle.
Ouais. Bah, d'abord, c'est le fruit mûr d'une longue histoire d'amitié et de spectacle avec Guillaume Vincent, le metteur en scène et co-auteur de ce spectacle, qui est mon autre hein, sur le plateau, qui est mon ami, qui est ma patrie. Et moi, j'ai fait plein de spectacles avec lui. Et puis est arrivé, le moment où on avait envie de, d'une rencontre plus exclusive, quoi, sur quelque chose de plus intime. Et on s'est retrouvés au carrefour de la vie, comme deux vieux enfants, à un moment où, particulier de l'existence, où nos grands-parents meurent, où nos parents déclinent, et donc on s'est emparé de la question du deuil et de la perte de la mère. Donc voilà, le contexte, Guillaume, c'est le moment du Covid, il quitte Paris, il retourne dans son fief, à Uzès, dans le sud, là où il y a ses parents. Sa grand-mère est mourante et meurt. Donc il est aux premières loges de toute cette déflagration de sa famille endeuillée, et puis il se fait bouleverser, il écrit, il retranscrit, il déforme. Et dans le processus d'écriture, comme ça, il décale et il met sa mère à la place de sa grand-mère. Donc ça, c'est la mixture de Guillaume. Et de mon côté, ma maman a un gros AVC. Et donc, je raconte à Guillaume, par le menu, la phasie spectaculaire dont ma mère est frappée. Et ça fait des histoires assez gratinées. Mmh. Donc Guillaume me dit, il faut que ça soit dans le spectacle.
Et voilà.
Donc, paradoxe, c'est ça. C'est cette collision et cette fusion de nos récits. Et puis le théâtre est venu s'engouffrer là-dedans avec toute sa puissance délirante et cathartique.
Et on rit beaucoup, on est bouleversé, alors que c'est quand même un sujet pas évident. Et ce qui frappe sur scène, c'est qu'en effet, vous êtes deux. Et pourtant, il y a une multitude de figures. Vous ne jouez pas des rôles installés, vous les traversez. Donc vous êtes la mère avant l'AVC, la mère après, l'enfant devenu aidante, l'adulte qui se souvient, le double de Guillaume, parfois même Guillaume lui-même. Tout passe par des glissements, il y a une voix qui déraille, une posture qui bouscule. Des tonnes de costumes et parfois rien du tout. Elle finit à poil sur scène.
Les trois âges de la femme.
Elle montre dans le corps les trois âges de la femme. Comment est-ce qu'on devient? C'est violent, c'est drôle. Et c'est précisément, je pense, pour ça que le spectacle est autant salué par la critique et par le public. Vous faites salle pleine à chaque fois. Donc vous savez tout faire. Il y a forcément quelque chose, je me suis dit hier soir, qu'elle ne sait pas faire. C'est pas possible, cette Florence. Peut-être qu'elle ne sait pas passer un coup de fil à une banque pour dire très calmement qu'il y a une erreur sur le relevé. On essaye un pro. Allô?
Oui?
Oui? Oui, bonjour.
Vous êtes mon nouveau conseiller financier?
Oui, c'est moi.
Mais vous n'êtes pas en congé?
Merde, elle s'est même joué ça. Elle s'est même démarrée comme ça.
On vient de voir une impro Daphné
tout
Burki.
À fait. Non. Alors moi, j'ai envie de vous présenter...
Qui joue la conseillère bancaire.
Tout à fait. Un petit peu mieux à ceux qui nous présentent. En passant, on va mettre la musique qui vous aide à vivre. C'est celle-ci. Et je vous remercie parce que cette musique aide à vivre, j'imagine, plein d'auditeurs qui nous écoutent. Et sur ce morceau culte, évidemment, The Time of My Life de Dirty Dancing, quelques questions très rapides, on répond du tac au tac façon speed dating. Vous êtes prête, Florence?
Allez.
Où avez-vous grandi, Florence?
À Béthune, Dash Nord.
Parlez près du micro.
À Béthune, Dash Nord, je t'ai dit.
Parlez-vous une langue étrangère?
Ah bah je suis polyglotte.
Qui aimeriez-vous épater dans la vie ?
Ah, Patrick Swayze, mais il est mort.
Votre premier crush ?
Serge Potavin, mon prof de sport. Mmh. Raymond Alib, mon voisin. Mmh. Mon parrain, Philippe.
Ah,
bon, il était avec Jocelyne. Et mon chauffeur de bus, Gérard.
Qui a été votre meilleur partenaire de jeu ?
Bah, Guillaume Vincent. Oh. Je suis obligée, Daphné.
Avec qui aimeriez-vous tourner, même si c'est impossible, Florence Chanas ?
Mmh. Impossible. Allez, un petit Guiraudy.
Très bien. Avez-vous... Avez-vous menti pendant ce speed dating avec l'auditeur aujourd'hui ?
Évidemment que oui.
Absolutely not. Je suis polyglotte.
Vous n'êtes pas du tout polyglotte. Avez-vous un talent caché que je n'aurais pas encore décelé, Florence ?
Oui, je connais par cœur Dorothée au pays des chansons.
Attendez, on arrête Time of My Life. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est quoi ?
C'est quoi ce spectacle de Dorothée ?
Un petit bout peut-être.
Alors allez-y.
Le début.
C'était quoi le début ?
Hey, psst. Vous êtes là ? Vous m'entendez ? Oui, oui, c'est moi, Dorothée. Oh, il m'arrive une chose extraordinaire. Je suis là, oui, là, dans ce disque.
Oh non, non, n'essayez pas de me voir, je suis devenue toute petite.
Ça, c'est la Dorothée pour
les petites. Eh mais oui.
Nous sommes en 1981, ça se passait sur Antenne 2. Vraiment, félicitations pour ce spectacle, conte musical Dorothée au pays des chansons, mais surtout, Paradoxe, que je vous conseille chaudement. Ça se passe en ce moment même. Ça va être du 15 au 26 janvier au Théâtre de Gennevilliers, ouais. Avant de partir en tournée au Théâtre Olympia à Tours, au Théâtre de Grasse ou encore au Théâtre du Jeu de Paume à Aix-en-Provence. On vous met toutes les dates.
Mais moi, je viens de vivre les...
Je vais vous dire quand même, et la vérité par rapport aux polyglottes, c'est que quand même, je veux dire, un jour, j'ai fait une audition et on m'a dit « Do you speak English ?» et j'ai répondu « Yet
». Okay. C'est Florence Janas, micro Florence Janas.
Merci beaucoup, Florence Janas. Allez, réveillez, on a un tout petit mot, bonjour.
Bonjour.
Le programme de Grand Bien vous fasse, bonjour juste après
tous.
Les infos.
Bonjour à toutes et à tous. Et bien ce matin, comment rendre son chat heureux ? Quels sont ses besoins physiologiques, physiques, psychologiques, émotionnels qui permettent à votre chat d'atteindre une forme de plénitude, une ataraxie, une zénitude, un bonheur maximal ? N'hésitez pas à appeler le standard et WhatsApp au 01 45 24 7000. Dites-nous également pourquoi il vous serait totalement impossible de vivre avec un chat.
À tout à l'heure.